Sud Radio 10h midi, Valérie Expert, Média.
6 voix, Maxine, 4 voix, Lucie. Ce bulletin peut déjà être décisif. Maxine, s'il est en votre faveur, alors vous remportez Koh-Lanta. Si en revanche, il est pour Lucie, le suspense est total. Maxine ! Maxine, vous remportez Koh-Lanta !
Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Gilles Gansman et bonjour Maxine. Merci d'être avec nous. Maxine, merci. Vous avez remporté donc Koh-Lanta. Ça vous a redonné des frissons d'entendre ça ?
Eh ben, c'est exactement ce que j'allais vous dire. Honnêtement, vous m'avez refait stresser, quoi.
C'est vrai. Vous avez cru qu'on allait, ce serait pas vous la gagnante.
Voilà, on ne sait jamais. Hein.
Donc, vous êtes ancienne championne de gymnastique acrobatique et de plongeon, et donc vous avez remporté cette 20e saison. C'est une belle revanche. Qu'est-ce que vous avez ressenti au moment justement du suspense? Vous étiez sûre que vous alliez gagner? Vous avez un mental de championne. Vous étiez sûre que vous pouviez gagner?
Je savais que je pouvais gagner, mais j'en étais pas sûre parce que j'avais pas non plus envie d'être déçue, et puis on sait jamais vraiment ce qui peut se passer dans cette aventure jusqu'à la fin. Mais j'ai ressenti énormément de fierté, beaucoup de bonheur, beaucoup d'émotions, c'était hyper émouvant, un peu de nostalgie aussi parce que c'est la fin d'une très belle aventure. Mais voilà, ma revanche a été prise et c'est un très bel accomplissement pour moi.
Ouais. Est-ce que TF1 vous a déjà viré des 100 000 euros ou pas sur votre compte?
Alors écoutez, j'ai même pas regardé, quoi. Ah. C'est vrai que j'ai passé le week-end à profiter avec ma famille, à faire la fête, puis aussi à, mine de rien, à digérer cette énorme nouvelle, parce que je crois que c'est très dur d'y croire, là, pour l'instant. C'est tellement énorme, mais non, en tout cas, j'ai passé un très bon week-end en famille.
Ouais. Vous allez faire quoi des gains?
Alors j'aimerais bien offrir un très beau voyage à mes parents et à mon frère pour qu'on puisse profiter tous les quatre et partir un petit peu loin de la France, parce que ça fait longtemps qu'on n'est pas partis ensemble. Donc j'aimerais bien les emmener au Costa Rica. Après forcément j'ai toujours voulu avoir un appartement et m'acheter quelque chose à moi. Donc j'aimerais bien aussi investir un petit peu et créer tous mes projets personnels, mes émissions avec les sportifs, tout ça. J'ai beaucoup de choses en tête.
Parce que Valérie, vous savez qu'elle qu'elle est aussi journaliste sportive.
Oui,
et Maxine, vous faisiez de la télé, donc vous ne voulez pas abandonner la télé. Alors, c'est ce que vous nous dites ce matin.
Non, pas du tout. Ouais. Ouais, non, pas du tout. J'adore mon métier. Je m'épanouis vraiment beaucoup là-dedans. J'adore être au contact des sportifs. Mon objectif, il est clair, hein, c'est d'être journaliste à Paris 2024. Donc, je ne vais pas lâcher. Et j'espère que je vais faire encore plein de belles choses, plein de belles émissions avec les sportifs.
Vous voulez faire les JO, c'est rigolo, ça.
Ouais, ouais. Et comment on passe de l'autre côté, justement, puisque vous avez encore une fois failli être qualifié, enfin, vous avez été contrainte de renoncer. Comment on passe de l'autre côté, justement?
C'est assez génial, hein, finalement, parce que la transition, c'est très bien faite. J'étais un peu triste d'arrêter comme ça, sur un échec. Mine de rien, heureusement que j'avais les études derrière et que j'avais quand même un pied qui restait dans le sport, parce que le sport, c'est quand même toute ma vie, c'est ce que je fais depuis que je suis toute petite. Ouais. Donc c'est génial de passer de l'autre côté, puis c'est génial surtout de continuer à rencontrer énormément de sportifs et de rester dans ce milieu-là. Et puis c'est génial, vu que j'ai échoué et que j'ai passé les Jeux en 2016, j'espère que j'y serai autrement en 2024.
C'est une revanche pour vous? On l'a souvent.
C'est clair. C'est clairement une revanche. C'est ma revanche personnelle. Là, c'était faire Koh-Lanta, c'était mon choix à moi. C'est ça qui est encore plus beau pour moi. Et c'est bon, je suis très fière. C'est que c'est moi qui ai décidé de faire cette aventure-là. Et puis je suis arrivée au bout.
Bon, Maxine, j'ai une question cruciale qu'on s'est beaucoup posée sur Twitter au moment des gros plans sur vos pieds quand vous étiez sur les poteaux. Ils étaient tout propres, tout beaux. Alors, il y a quelqu'un, il s'appelle Pierre-Antoine Damécourt, qui a soupçonné que la production vous ait donné quelque chose pour vous faire les ongles et coupler vos ongles de pied. Alors, il y a peut-être un scandale là-dessous. Est-ce que la production vous a donné les moyens de vous couper les ongles après un mois?
J'aurais bien aimé, hein, je vous le dis, hein, mais non, c'était pas du tout le cas. Moi, j'ai pas trouvé que mes pieds étaient si beaux, hein, figurez-vous. ça se voit quand même que j'ai les ongles longs et pas très propres. Mais non, on n'a rien. Hein, on n'a rien, on mange pas, on n'a pas de coupons, pas de lime. Donc non, ça c'était. Mais c'est vrai que ça va, c'était pas si pire encore.
Très bien. Écoutez, on va vous laisser savourer encore une fois cette
victoire. Vous viendrez nous voir en studio.
En studio, effectivement, Maxine.
Avec grand plaisir.
Maxine Éhouzan qui a remporté Koh-Lanta cette année avec des très bons scores pour TF1. 5,7 millions de téléspectateurs. Alors, sur les 4-14 ans, ça fait 60%. C'est aussi une émission qui rassemble toute la famille. Merci à vous. Dans un instant,
merci
tout
beaucoup.
Autre chose, une nouvelle émission sur M6. On sera avec Nathalie Renoux et le général Fabrice Bouillet. C'est tout de suite.
Oui, et c'est d'ailleurs la question du jour, puisque le principe de l'émission, c'est la télé qui va faire appel à des témoins. Vous allez pouvoir témoigner en direct, on va en parler dans un instant, pour résoudre des affaires non élucidées. Alors, est-ce que c'est le rôle de la télé? Est-ce que ça peut servir? Vous dites oui à 64%, non à 36%. Vous pouvez continuer d'aller voter sur le compte Twitter de Sud Radio.
Les invités du jour.
Sud Radio 10h midi, Média, les invités du jour.
Deux invités avec nous, Nathalie Renoux, bonjour,
on vous connaît, Madame.
Vous êtes l'un des visages emblématiques d'M6, vous êtes journaliste, vous êtes là pour nous parler d'une nouvelle émission et avec vous, à vos côtés, le général Fabrice Bouillet, bonjour. Merci d'être avec nous, vous êtes chef du service central de renseignement criminel de la gendarmerie nationale et donc ce soir, nouvelle émission sur M6, appel à témoins que vous présenterez avec Julien Courbet à vos côtés. Nouvelle émission et pour la première fois, alors je rappelle que vous êtes tous les jours 12h45 sur M6, vous présentez
19h45
voilà. Enquête criminelle sur W9, donc c'était logique qu'M6 pense à vous pour présenter cette émission. Nouvelle émission qui n'est pas sans rappeler certaines émissions qu'il y a pu y avoir dans le passé comme Témoin numéro 1 qui était présenté par Jacques Pradel, mais la grande différence cette fois-ci, c'est que la gendarmerie, enfin le ministère de l'Intérieur, est à vos côtés. Alors racontez-nous un petit peu le principe de l'émission.
Le principe de l'émission, c'est de lancer un appel à témoins, qui est un outil que la gendarmerie et la police peuvent utiliser de manière assez fréquente dans les enquêtes. Simplement, cette fois, on lui donne une caisse de résonance nationale et forte, puisque c'est une émission de télévision, et qu'en plus de ça, on est en direct. Donc, l'appel à témoins, il est lancé, et à tout moment, les téléspectateurs qui se sentent interpellés et qui ont des choses à dire peuvent nous appeler. On réceptionnera les appels, on réceptionnera leur mail également s'ils ne veulent pas s'exprimer oralement. Tout ça en dehors de l'antenne. Je veux dire, les appels ne seront pas reçus en direct. Et puis, c'est vrai que cette collaboration avec le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Justice également, est assez nouvelle dans la façon dont on a travaillé sur l'émission.
Alors, la différence des appels qu'on peut faire lorsqu'il y a eu un enlèvement avec les alertes enlèvement, là, c'est ce qu'on appelle des cold cases, c'est-à-dire des cas assez âgés qui n'ont pas trouvé une finalité. Et par exemple, il y en a certains qui datent de 2015. Alors, lorsqu'on recherche, par exemple, Lucas Tronche, est-ce qu'on recherche plutôt la personne ou on recherche pourquoi elle a disparu? C'est quoi le but, en fait?
En fait, vous avez répondu en me questionnant. L'objectif de ce type d'opération, et forces de sécurité intérieure, police comme gendarmerie, quand elles sont investies de ces dossiers-là, n'ont qu'une seule idée en tête. À partir du moment où on n'a pas de scène de crime, bien entendu, nous avons toujours espoir de retrouver la personne vivante. Sinon, notre démarche, j'allais dire, ne serait pas totale. Après, lorsque nous avons affaire à une scène de crime, comme c'est le cas du cas de Gaël Fossé, par exemple, évidemment, nos approches sont totalement différentes. Mais le premier des objectifs quand même de notre travail, c'est de donner des réponses aux familles, puisqu'elles attendent des réponses, de leur démontrer que nous ne lâchons rien, que nous restons mobilisés sur ces dossiers qui ne doivent pas tomber dans l'oubli.
Donc vous attendez que quelqu'un dénonce un meurtrier?
Non, on n'est pas dans la dénonciation. On est dans je pense que ce serait un raccourci trop rapide. On est bien dans la volonté de réinterroger les mémoires. Quand on prend une affaire non élucidée, nous avons une méthode. Elle n'est pas empirique. Elle s'appuie d'abord sur des équipes pluridisciplinaires. Donc que ce soit du domaine scientifique de l'enquête, tout simplement, des enquêteurs chevronnés ou des analystes comportementaux. On pourra y revenir tout à l'heure. L'objectif, c'est de réinterroger chaque pièce de procédure et de voir si on n'a pas oublié quelque chose. Et un témoignage peut nous-mêmes nous interroger. Et tiens, cette personne qui a été entendue, potentiellement, elle va se dire peut-être, ce soir-là, ce soir, elle va peut-être se dire, tiens, j'ai oublié de dire ça.
Et puis je pense qu'on n'appelle pas les gens à dénoncer quiconque, on appelle les gens à nous dire, ben voilà, le jour des faits, il s'est passé quelque chose, je pensais que c'était pas important, mais finalement je préfère le dire. Et cette petite chose, cette petite pièce du puzzle, s'imbriquera peut-être avec d'autres pièces pour reconstituer l'histoire. Donc on ne demande pas de dénoncer, on demande de dire ce qu'on a vu, ce qu'on a entendu, ce qu'on a peut-être oublié de raconter à l'époque des faits.
Oui, c'est pas gênant, c'est la question évidemment qu'on va vous poser, que la télévision, je veux vous poser à tous les deux, que la télévision finalement joue ce rôle. Il y a un côté auxiliaire de justice qui peut être gênant.
Je vois pas où. Moi, en tout cas, je ne me sens pas gênée. On sera sur le plateau avec les familles des trois cas que nous traitons.
Non, c'est le voyeurisme.
La famille de Gaëlle Fossé, la famille de Lucas Tronche, qui est un adolescent qui a disparu en 2015. Gaëlle Fossé, qui est une jeune femme qui a été tuée de 66 coups de couteau et son meurtrier n'a toujours pas été retrouvé. On sera avec la famille de Suzanne Bourlier, une septuagénaire qui a disparu elle aussi depuis 2015. Ces gens-là, ils sont depuis des années dans le mystère, dans l'attente de réponses, dans l'incertitude. Je pense que la souffrance de cette situation-là, elle est plus importante que l'idée quelconque d'un voyeurisme. D'abord, pour le respect des familles, on sera, je pense, très digne dans la façon dont on va traiter les affaires.
Et dont ça va être réalisé aussi, j'imagine.
Exactement.
À l'image.
Ouais. En tout cas, moi, je veux bien qu'on nous traite de voyeurs, mais je pense que...
C'est la question qui peut se poser. La télévision est là pour faire du spectacle.
On veut éviter cet écueil-là parce que c'est une matière délicate, la matière criminelle, et parce qu'on sera en présence des familles, donc on n'a pas envie d'être dans le voyeurisme.
Je vois qu'il y a un journaliste qui sera sur le terrain, c'est-à-dire quel sera son rôle
Sur une des affaires, il sera sur les lieux pour que le téléspectateur puisse prendre conscience de la configuration des lieux, et puis a priori, il sera aussi avec des gens qui connaissaient la victime et qui apporteront leur témoignage depuis le lieu du drame.
Oui, général, il y a un des cas où il existe un portrait robot qui n'a encore jamais été diffusé. Qui décide de diffuser un portrait robot? Et est-ce que les portraits robots, ils ont évolué? Parce que moi, j'ai l'image du portrait robot un peu fait avec les cellophanes.
Effectivement, pendant très longtemps, on a travaillé avec ce type de répertoire, avec des yeux, des cheveux, une capillarité, couleur de peau, forme du menton, du nez, etc. Aujourd'hui, ce sont des logiciels, on s'appuie sur les technologies numériques qui nous permettent de faire des choses extrêmement précises. On a aussi des logiciels de morphing qui permettent de vieillir artificiellement des personnes.
Et c'est que la justice qui peut autoriser la diffusion. C'est qu'un procureur, c'est ça ?
Tout à fait. C'est avec la composition est faite par les enquêteurs spécialisés en les portraitistes, nos portraitistes. Et évidemment, c'est le magistrat qui va décider.
Comment ont été choisis les trois cas qu'on va voir ce soir ? Est-ce que ce sont des affaires qui sont sur le point d'être résolues ? Ça, c'est peut-être vous qui pourrez répondre, mais Nathalie, Renaud.
En tout cas, je pense que ce sont des affaires sur lesquelles on peut avoir un espoir d'apporter quelque chose grâce à appel à témoins, évidemment. On a deux disparitions, celle d'un adolescent, celle du septuagénaire, et puis on a un crime non résolu. Sur ce crime-là, effectivement, l'enquête s'est resserrée sur un certain nombre de suspects. Maintenant, je ne sais pas si on nous pourra aboutir. On espère évidemment que cet appel à témoins fera avancer ces enquêtes, ça c'est certain.
Qu'est-ce que vous attendez de cette émission, vous, général?
Comme on l'a déjà dit, je crois, autour de ce plateau, un appel à témoins, c'est un levier d'action. Ouais. C'est une possibilité, c'est un c'est un facteur de réussite potentiel. Donc il faut l'utiliser. On ne peut pas se permettre de ne pas le faire. Sur les dossiers, pourquoi ont-ils été sélectionnés? On veut éviter de toute façon de rester dans une potentielle impasse. Les disparitions, notamment, sont pour nous des casse-têtes véritables lorsqu'il n'y a pas de scène de crime. Donc il y a une vraie difficulté. Et donc la réinterrogation des mémoires et la mobilisation de la société de façon récurrente est quelque chose d'utile. Et puis après, il ne faut pas oublier que certains dossiers ont un potentiel d'élucidation fort. Par les témoignages qui ont déjà été recueillis, bien entendu, mais aussi par la dimension criminalistique, donc de police technique et scientifique, qu'il ne faut pas négliger. Bien entendu, il y a peut-être donc des choses qui peuvent être mises en exergue au travers de cette émission.
Si je puis me permettre, une émission de faits divers qui n'était pas sur notre chaîne il y a quelques années, en se replongeant dans une enquête, a fait réémerger des témoignages et des lignes ont bougé et un criminel a pu être arrêté. Parce que des fois, le fait de faire ressurgir d'élargir un dossier, de le réactualiser, bien, ça permet à des témoins de se dire, ah ben oui, mais j'avais peut-être pas tout dit, ou je me souviens de quelque chose, et puis ça peut faire bouger les lignes, donc tout est possible.
Sur l'appel à témoins et sur les disparitions, quelle est la part de disparition volontaire et de meurtre?
Alors, quand il y a un meurtre, bien entendu, nous avons une scène de crime.
Oui, vous avez une scène, ou d'assassinat. Est-ce que dans les 10 000 personnes qu'on n'a pas retrouvées...
J'ai pas les chiffres.
Moi, j'ai quelques chiffres. Oui. 2019, 51 000 disparitions inquiétantes concernaient des mineurs sur environ 60 000 chaque année. Et en fait, la plupart, c'était des fugues. Ouais. Parce que c'est un mineur toutes les 10 minutes qui est déclaré comme disparu. Mais parmi
un mineur tous les 10 minutes.
Oui, mais parmi ceux-là, il y en a qui fuguent pendant 4 heures, quand pendant 10 heures.
Oui, les parents
s'inquiètent, évidemment, et ils signalent. Et puis, en fait, l'enfant rentre très vite. Mais au final, il y a à peu près 1000 cas de disparition très inquiétantes chaque année. Oui. Et entre 250 et 300 cold cases.
La question que vous allez peut-être me poser, c'est de savoir qu'est-ce que c'est qu'un cold case.
Si vous reprenez le rapport du groupe de travail
du procureur général d'Alest, on tente une définition, bien entendu. Et après, se pose immédiatement la question, mais en fait, un cold case, ça commence à partir de quand? Et en fait, moi, j'ai tendance à dire, alors peut-être que c'est par déformation professionnelle, mais à partir du moment où on se projette sur une scène d'infraction, une scène de crime, l'affaire est non élucidée.
Ouais.
Donc moi, le point de départ, c'est dès que je suis appelé.
Et quelle résolution, le
problème, c'est que ça devient une affaire entre guillemets froide. Moi, je n'aime pas ce terme-là. Lorsque les pistes principales qui ont été privilégiées à un moment donné par la direction d'enquête n'aboutissent pas pour tout un tas de raisons, évidemment, et qui ne permettent pas de matérialiser véritablement l'infraction ou la commission de l'infraction par un auteur. Mmh. Voilà, donc on est dans une difficulté. On peut
être
surpris.
Une question sur les résolutions qui peuvent intervenir jusqu'à combien de temps après? Est-ce qu'on a résolu des cas?
Là, en fait, les progrès de la science ont permis à des cold cases d'aboutir parfois 20 ans après. Ouais. Parce qu'on a gardé des pièces à conviction, que dessus il y avait de l'ADN et qu'aujourd'hui on sait lire l'ADN. Et puis en plus, cette lecture de l'ADN est de plus en plus précise. Donc même avec des petits bouts d'ADN aujourd'hui, je crois qu'on arrive à.
Hier, Valérie, Interpol.
Je vous renvoie au dossier de Chantal de Chilou. Qui a fait l'objet d'une élucidation grâce à l'ADN,
Hier, Interpol a annoncé qu'il se dotait d'une base de données d'ADN familiaux pour identifier les disparus. Hier, Interpol a annoncé qu'ils allaient faire un grand fichier, c'est ça.
Ouais. Là, on a traité par exemple le cas d'une petite fille, la petite disparue de l'autoroute A10.
C'est un
dossier absolument incroyable. Et parce que son frère a été arrêté 30 ans après, il avait 30 ans, et on a prélevé son ADN et on s'est dit ça match avec celui de cette petite fille. Mmh. Et c'est ainsi qu'on est remonté jusqu'aux parents.
Alors la parentèle, l'ADN par la parentèle a fait l'objet justement de. Alors, non pas d'une médiatisation, mais on va dire d'une information du public sur les capacités qu'offre effectivement les progrès scientifiques et le fait qu'on puisse déterminer au travers d'une fratrie par la parentèle évidemment un ADN et finalement donner une réponse à des familles de victimes.
Nathalie, dans quel état d'esprit sont les familles? Vous les avez vues, rencontrées avant? Parce que j'imagine que la pression, enfin il doit y avoir une forme d'émotion très forte et de pression également pour vous.
Alors moi je ne les ai pas rencontrées à titre personnel, mais nos équipes je pense que ce sont des familles qui ont un espoir, on va dire, raisonné. Parce que ça fait des années qu'elles sont dans l'attente. Donc, je ne pense pas qu'elles soient... qu'elles espèrent miraculeusement que tout se débloque ce soir. Mais simplement, ça leur montre aussi qu'on est à leur côté, qu'on ne les oublie pas. Et je pense que pour elles, c'est aussi un acte de montrer qu'elles n'abandonnent pas derrière elles le membre de leur famille qui soit est décédé, soit a disparu. Je pense que c'est un acte fort aussi pour elle d'être présente.
Alors ce soir, appel à témoins, donc Nathalie Renoux, Julien Courbet.
Oui. Je peux rajouter le numéro de téléphone et le site, parce que c'est quand même important. Le numéro de téléphone à appeler, c'est le 0800 10 11 21. Et le site internet, c'est appel à témoins avec un S, M6, @intérieur.gouv.fr.
Bah, j'imagine que vous allez le répéter.
On va le répéter, bien entendu.
Mais c'est pour se préparer.
Mais au moins, c'est dit.
Intéressant. En tout cas, appel à témoins, Nathalie Renoux, Julien Courbet. Et puis, on vous verra, vous y serez également, général.
Alors, je ne serai pas présent en plateau, mais pas loin.
Pas loin, d'accord. Très bien, merci. Merci à vous, merci Général Fabrice Bouillet d'avoir été avec nous également. Merci Nathalie Renoux. À tout de suite.